Les communications à destination et en provenance d'un destroyer stellaire comme le DSI Chimera suivaient une multitude de directions et possédaient différents statuts et niveaux de sécurité. Chaque message disposait d'un code numérique précisant son degré d'importance ainsi que comment et par qui il devait être traité. La Commodore Karine Faro connaissait chacun de ces codes, mais dans un recoin encore juvénile de son esprit que des années de réglementation et d'ordonnances militaires n'avaient pas totalement réussi à éradiquer, ces codes se retrouvaient curieusement associés à une couleur. Les signaux d'identification de vaisseaux voisins, les rapports provenant de bases situées à une distance moyenne, ainsi que les questions courantes gérées par les officiers subalternes, affichaient diverses nuances de bleu et de vert. Les quelques ordres et rapports d'importance venus de Coruscant, du centre impérial, comme aimait à l'appeler la bureaucratie ces derniers temps, lui apparaissaient en jaune et orange. Cela était passé au crible des officiers supérieurs du Chimera. La petite poignée de messages vitaux, ou top secrets, en provenance d'amiraux du haut commandement, dont l'ensemble était géré par Faro personnellement, se voyait doté de couleurs plus sombres, comme le rouge ou le violet. Enfin, les rares, très rares, messages originaires de l'extérieur de la chaîne de commandement, ceux qui étaient directement transmis au grand amiral Throne lui-même, étaient d'un noir implacable. Et ceux-là ne présageaient jamais rien de bon.
Votre programme, défenseur Thaï, se voit menacé,
déclara le grand Moff Tarkin. Depuis l'entrée du bureau de Throne, avec l'image holographique dos à elle, Faro ne pouvait voir l'expression du visage de Tarkin. Mais elle voyait celle de Throne, et le raidissement subtil de ses traits fit naître un petit frisson le long de son échine.
Orson Krennic s'est montré plutôt convaincant pour ce qui est de détourner les fonds au bénéfice de son propre projet Nébuleuse,
ajouta Tarkin. L'empereur m'a assuré qu'il soutenait mon programme, répliqua Throne. Ses traits étaient de nouveau sous contrôle, nota Faro, et sa voix aussi calme que d'habitude. Mais elle percevait une sorte de tension qu'elle avait déjà entendue. L'empereur et Throne partageaient une relation particulière qui remontait à la première venue du Schiss sur Coruscant. On racontait que, surtout dans les premières années, les deux hommes disparaissaient parfois pendant des heures entre les murs du centre de planification stratégique du palais, où ils s'enfermaient en compagnie de quelques hauts amiraux et mofs de confiance pour discuter de sujets encore inconnus à ce jour. Si Krennic avait l'intention de prendre l'un des favoris de l'empereur à la légère, il s'engageait sur un terrain glissant. Au-delà du ridicule d'une telle manœuvre politique, c'était la survie même de l'Empire que Krennic mettait en jeu. L'usine de défenseurs Thaï que Throne avait installée sur la planète Lothal, dans la bordure extérieure, était en passe de produire les meilleurs chasseurs stellaires que la galaxie ait connus. Rapides, maniables, lourdement armés et, changement radical pour la série Thaï, dotés de boucliers et d'hyperdrive. Ils devenaient capables de tout affronter, même les flottes des gangs de pirates ou des systèmes récalcitrants les mieux équipés, et de venir à bout du mouvement de rébellion qui se développait lentement. Sans le défenseur, Coruscant devait s'attendre à de longs combats sur l'ensemble de ses trois fronts. Avec le défenseur, l'Empire serait imbattable.
À mes yeux, le projet du directeur Krennic n'aura été, toutes ces années, que dépenses et retards,
concéda Tarkin.
Pour que la construction du défenseur se poursuive, vous allez devoir plaider votre cause directement auprès de l'empereur. Je vous ai déjà organisé un rendez-vous.
Je pars immédiatement, gouverneur Tarkin, répondit Throne. L'holoprojecteur s'éteignit et le Schiss enfonça le bouton du système COM. Commandant, informez la gouverneur Price que je suis en route pour Coruscant, ordonna-t-il. Passez en hyperespace dès que la trajectoire sera calculée. La passerelle accusa réception. L'espace d'un instant, Throne observa son bureau d'un regard fixe, comme s'il réfléchissait aux options qui s'offraient à lui, puis il releva les yeux vers Faro. Commodore, dit-il d'un ton grave, est-ce là l'inventaire des communications que j'avais demandé?
Oui, amiral, répondit-elle en s'avançant pour lui tendre son datapad. Je crains cependant que nous ayons échoué à repérer une tendance générale.
Throne prit le datapad et parcourut les chiffres en silence.
Pharo l'observa et se demanda si, comme elle, il pensait au commandant Elivanto et au fait que lui aurait été capable de tirer quelque chose de ces données, heure, date et fréquence comme, à première vue sans lien apparent, qu'elle avait rassemblé. Vanto était doué pour ces choses-là. Mais Vanto n'était plus là. Il avait un jour disparu du Chimera sans laisser de traces. À en croire les rumeurs, il pouvait être un peu partout depuis l'espace sauvage jusqu'au palais de l'empereur au service d'un groupe stratégique secret, voire même mort, son corps flottant au milieu de l'espace. En réalité, personne ne savait vraiment ce qui lui était arrivé. Pharo avait interrogé Sraun à l'époque. La réponse du grand amiral avait été plutôt polie, mais elle avait compris de façon très claire qu'elle ne devait plus jamais lui reposer la question. À titre personnel, étant donné l'attachement que Sraun avait pour le jeune homme, la relation maître-élève qu'ils avaient partagée, ainsi que son implication dans l'évolution de carrière de Vanto, Pharo était presque certaine que ce dernier était mort. Elle ne voyait aucune autre raison qui aurait pu expliquer son départ du Chimera. Peut-être que les rebelles font preuve de prudence pour une fois, dit Sraun en lui rendant le datapad. Ou alors, peut-être que le groupe qui projette de secourir Hera Syndulla est assez petit pour se passer de communication ouverte. Pharo pinça les lèvres. Oui, le groupe qui, sans aucun doute, complotait pour libérer Syndulla du centre de détention de la gouverneur Price devait être de petite taille. Mais il ne fallait pas le sous-estimer pour autant, ne serait-ce qu'en raison de la présence en son sein de l'ancien Jedi Kanan Jarrus et de son jeune apprenti, Ezra Bridger. D'une certaine façon, Pharo aurait préféré que Syndulla soit morte avec le reste de son escadron d'X-Wing lors de leurs efforts infructueux face au Chimera et au reste de la flotte de Sraun pour reprendre le contrôle de l'espace autour de l'Otal. Les prisonniers se révélaient parfois utiles pour toutes sortes de raisons, mais ils pouvaient aussi donner de vrais maux de tête comme de nouvelles raisons à leurs ennemis de passer à l'attaque. Si Sraun avait été seul à gérer la situation, Pharo était persuadé qu'il aurait réussi à transformer ses contraintes en atouts. Mais c'était Price qui détenait la prisonnière et elle n'avait pas l'intelligence, la subtilité, ni même les talents de stratège de Sraun. Le pire, c'était que Price avait laissé la situation l'affecter sur le plan émotionnel. La gouverneure prenait de façon personnelle les attaques rebelles contre sa planète et, par conséquent, réfléchissait plus avec ses tripes qu'avec son cerveau. Voir Sraun s'éloigner de l'Otal et devoir se passer de son influence comme de ses conseils, même pour quelques jours, pouvait mener au désastre. Sans en arriver là, Syndulla pourrait mourir sans avoir rendu le moindre service utile à l'Empire. Perdre une ressource aussi précieuse serait un terrible gâchis, mais là encore, Price ne semblait pas vraiment s'en soucier.
« Je crois comprendre que vous désapprouvez le départ du Chimera pour Coruscant. »
En effet, amiral.
Sraun avait depuis longtemps appris à déchiffrer son langage facial et corporel. Et Pharo avait depuis longtemps accepté cette compétence de sorte qu'elle ne l'effrayait plus.
Je pense que la gouverneur Price n'a pas la moindre idée de ce qui lui pend au nez avec Syndulla, poursuivit-elle. Si Jarrus et son équipe décident de venir la libérer, je ne crois pas qu'elle saura les arrêter.
Je suis d'accord.
D'un autre côté, perdre Syndulla ne serait qu'une défaite relative. Perdre le programme Défenseur Taille serait catastrophique.
Si le projet du directeur Krennic est celui auquel je pense, cela relève d'une approche stratégique sans vision à long terme sur le plan offensif comme sur le plan défensif.
S'il a bel et bien persuadé l'Empereur de lui octroyer les fonds consacrés aux défenseurs, c'est tout l'avenir de l'Empire qui en sera fortement impacté.
Bien, amiral.
Le seigneur Vador, elle le savait, avait aussi exprimé son intérêt pour le défenseur, surtout après en avoir piloté un contre les forces grisques dans les régions inconnues. Ce soutien pouvait certainement peser dans la balance au bénéfice de Sraun. Mais Vador parlait au nom de l'empereur. Si l'empereur devait tourner le dos au défenseur, Vador ferait de même. Un tintement s'éleva du système com.
« Amiral, ici la passerelle !»
annonça la voix de la commandante Amerly dans le haut-parleur.
« Nous venons de recevoir de nouvelles coordonnées de la part du gouverneur Tarkin. Apparemment, nous devons désormais le retrouver à bord du Fire Drake, actuellement dans le système SafeTalk. »